Quelques petites précisions peut-être avant de commencer, pour orienter votre écoute à tout le moins. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt une photographie aérienne ou en tout cas un plan un peu plus macroscopique de la question de l'altérité chez Bachelard, vu au travers de la référence prométhéenne. Donc c'est la lunette qui va être la mienne aujourd'hui. Je vais certainement aller un peu moins de pli en pli, comme beaucoup ont fait et qui suscite beaucoup d'admiration chez moi. Je ne suis pas un philosophe, je suis psychologue de formation, donc voilà, c'est depuis cette position initiale que je vais m'intéresser à la question de l'altérité. Donc d'une part, et d'autre part, ça va venir tranquillement, je pense, pendant ma présentation, il y a aussi toute la question de la référence bachelardienne à la tradition, puisqu'une référence à Prométhée, c'est aussi une référence à la tradition. Donc ce seront les deux grands axes dont je vais essayer de tenir compte dans ma présentation aujourd'hui. Dernière chose peut-être avant que je commence un peu plus officiellement, je m'excuse par avance de ce qui pourrait être redondant dans ce que je dirais de Prométhée en première partie, à tout le moins ce que je dirais sur le complexe de Prométhée dans la psychanalyse du feu. Il y a Madame Bouchao qui en a déjà parlé très éloquemment. Dans cette partie de ma présentation, il y aura peut-être pas énormément de choses très originales par rapport à ce qui a déjà été dit, mais je pense qu'ensuite je propose une lecture de Bachelard qui, en tout cas, qui a ses originalités, je crois. Donc, voilà. Dans une entrevue donnée un jour à la télévision, Michel Foucault a assez bien résumé le style de la philosophie de Bachelard en affirmant laconiquement, qu'elle joue contre sa propre culture avec sa propre culture. Donc, il y a déjà là, dans cette phrase, déjà tout le paradoxe bachelardien, qu'elle prend un peu comme un habile joueur d'échecs de grosses pièces avec de petits pions. Donc, cette synthèse me semble assez juste. Le lecteur attentif aux propos de Bachelard aura en effet remarqué que ce dernier n'a jamais hésité à faire jouer les poètes ou les philosophes mineurs, dit Foucault, contre Descartes, contre les grands philosophes qu'il faut lire, qu'il faut avoir lus. J'ajouterai ici que ce constat vaut également pour toutes les méthodes et tous les champs élus par la pensée bachelardienne, hein, de la science à la phénoménologie, en passant par la psychanalyse, la métaphysique, la littérature, la mythologie, etc. Ce qui, certainement, ne manque pas de contribuer au fait que la poétique du philosophe doit une grande part de son originalité, voire de son caractère indécidable, finalement indécidable, effectivement inassimilable à une pensée d'école, à l'effort qui s'y déploie pour prendre la tradition, pourrait-on penser, dans un premier temps, à contre-pied. Les grandes images qui ont alimenté la rêverie du philosophe, dans cet esprit, restent profondément marquées par le rapport aussi fertile que paradoxal, c'est bien sur quoi je vais essayer d'insister aujourd'hui, que ce dernier entretient avec la tradition, tradition sur laquelle il s'appuie évidemment, mais qu'il tente en même temps, et presque aussitôt qu'il l'a évoqué, de dépasser, de désolidariser, de la culture, à savoir de tout ce qui est appris, parfois figé dans le savoir ou l'habitude que nous avons de nous-mêmes, de la pensée et du monde. En clair, de tout ce qui, lorsque Bachelard évoque un document de la tradition, empêche de bien rêver, comme les rationalisations répétées, l'érudition, le pédantisme, la connaissance historique, les adhérences théoriques, voire l'éducation et la culture générale comme telle. L'essentiel se trouve en moins pour lui dans les documents de la tradition et dans l'histoire de leurs commentaires que dans les images vivantes auxquelles il est possible de participer librement. Dans cet esprit, l'évocation du personnage mythologique de Prométhée s'avère exemplaire d'une pratique de référence typiquement bachelardienne. Surtout dans sa manière d'être présentée par le philosophe, en particulier dans les fragments d'une poétique du feu, comme une figure forte de l'arrachement et de l'élévation. La silencieuse ambiguïté de cet arrachement, de cette insistance sur un prométhéisme libérateur, qui emprunte peut-être un peu plus qu'il n'y paraît à la tradition et aux auspices de l'altérité, c'est à cette ambiguïté, à l'ambiguïté de cet arrachement, que je souhaite m'intéresser plus spécifiquement aujourd'hui. Premier point, donc la psychanalyse du feu et le complexe de Prométhée. En première approximation, le héros Prométhée, parce qu'il apporte le feu et la lumière, l'esprit et la conscience, se présente chez le philosophe dans le tissu d'une rêverie essentiellement placée sous le signe d'animus, c'est-à-dire dans l'esprit d'une perspective dynamique, où sont accumulés, par référence à des fragments du mythe d'origine. Ça, c'est très intéressant, si je fais une petite parenthèse ici. Moi, ça m'a en tout cas beaucoup intéressé. il utilise vraiment les fragments du mythe. Alors que c'est dans, si on va directement vers les documents de la tradition, un mythe extrêmement riche, qui a plusieurs versions, et chez Hésiode, Platon, etc. Donc Bachelard, c'est un exemple patent d'une référence bachelardienne. Hein. Quand Bachelard parle d'utiliser des fragments, des instantanés, il n'y a pas de meilleur exemple que sa référence au mythe de Prométhée. Fait que je referme la parenthèse, mais je reviendrai sur ce qui peut être un peu paradoxal là-dedans un peu plus tard. Donc, les méditations sur le savoir et l'élévation par la raison, la ruse et l'audace, l'activité et l'impétuosité. Cette référence, donc, comme je viens de le dire, est patente dans la poétique du feu. C'est le cas aussi, du moins au niveau de la valeur phénoménologique des images, dans un chapitre consacré par Bachelard au complexe de Prométhée, dans la psychanalyse du feu, publié 50 ans plus tôt. La valeur phénoménologique des images, hein, c'est textuel, c'est une référence de Bachelard dans la psychanalyse du feu. Chapitre au sein duquel l'ivresse du savoir et de la lumière, de la transgression et du dépassement caractérise aussi la volonté d'intellectualité de l'esprit scientifique. Un écart important interdit d'assimiler toutefois les deux ouvrages. C'est la psychanalyse, comme tout le monde le sait, hein, je dis rien de très original ici, et non la phénoménologie, qui dans l'étude publiée en 38 guide le philosophe. Cet écart a toutefois son importance dans la prise en compte de l'altérité dans le prométhéisme bachelardien. En fait, il existe entre ces deux ouvrages une distinction qui semble coordonner les autres. Il s'agit du privilège accordé, dans la psychanalyse du feu, à l'interprétation psychologique de la fascination suscitée par les images du feu. Cette fascination, précise en substance le philosophe, est primitivement tournée vers l'expérience et le savoir du père, de l'adulte, vers le monopole du danger et le contrôle du feu par les adultes. De sorte que l'évocation du titan Prométhée, plutôt que d'y inspirer une rêverie libre et autonome, il désigne en fait une zone de conflit psychologique que Bachelard, encore une fois, comme on sait tous, condense dans l'expression complexe de Prométhée, dont il emprunte le style aussi bien que l'esprit à Freud. Moi ici, j'avais quelques citations, je les répéterai pas inutilement, elles ont été faites, ces citations, on y a référé, Madame Bouchiao y a référé, et je pense que c'est suffisamment connu. Donc je poursuis. Dans la psychanalyse du feu, le renvoi à Prométhée permet ainsi de circonscrire une forme d'expérience à l'intérieur de laquelle le feu se trouve défini comme un feu socialisé, un feu intersubjectif qui évoque un type assez précis de rapport à l'autre, au père. En ce sens, l'élaboration de Bachelard autour du complexe de Prométhée dans la psychanalyse du feu, sans vraiment déboucher sur une pensée de l'altérité officielle, entre guillemets, revendiquée et présentée comme telle, présuppose tout de même une forme assez spécifique de mid-zine, hein, d'être avec, à la faveur duquel l'existence égale toujours et par principe à une coexistence. La première connaissance du feu s'articulant précisément autour de l'avertissement donné par l'adulte. De fait, si l'altérité est effectivement considérée dans la psychanalyse du feu, la séduction du feu et la volonté prométhéenne ayant forcément quelque chose à voir avec l'autre qui les encadre, les interdit, les punit, etc., elle reste en même temps plus ou moins réduite à sa confrontation, je suis probablement un peu sévère ici en parlant de réduction, mais je mettrai le terme en guillemets, mais bon, plus ou moins réduite à la confrontation du sujet avec la réalité sociale, avec les instances et les personnages contre lesquels va s'exercer la première exploration du feu, la première désobéissance. Entre parenthèses aussi, le mot désobéissance, ça revient un nombre important de fois dans la poétique du feu. Je vais revenir à ça aussi. C'est le flirt donc avec le psychologisme qui, toutefois, nous défend d'insister davantage sur la proximité de cette psychanalyse épistémologique avec les élaborations poétiques et phénoménologiques du chapitre consacré à la figure de Prométhée dans les fragments d'une poétique du feu. Notons aussi, en passant, que c'est la référence à la tradition et au mutos qui, dans l'exploration bachelardienne du complexe de Prométhée, est appelée à s'effacer derrière les déterminations inconscientes et psychologiques, forcément un peu réductrices, de l'expérience primitive, derrière la vocation en soi scientifique de la psychanalyse de la connaissance objective. Il y a donc bien dans la psychanalyse du feu une forme de prise en compte de l'altérité, mais celle-ci semble assignée à la relation sociale et parentale, voire ouvertement reconduite à la confrontation de la volonté et du monde dans le processus d'émancipation de l'esprit. Ce qui ne signifie pas pour autant que la psychanalyse elle-même n'a rien d'autre à dire sur l'altérité. Bon, ça, je m'attarderai pas beaucoup là-dessus, mais ce serait très injuste de dire que la psychanalyse a pas une pensée de l'altérité. Je pense pas, par ailleurs, que Bachelard engage cette pensée de l'altérité comme on peut la trouver dans la psychanalyse. Au fond, ce que je veux dire, c'est que Bachelard a eu une conception dans la psychanalyse du feu, peut-être un peu avant, hein, dans l'esprit de sa de la vocation épistémologique de son rationalisme, une conception plutôt réductrice de la psychanalyse, surtout quand il a référé à Freud, comme s'il avait plus ou moins trouvé en Jung ce moyen de rendre la psychanalyse moins réductrice, justement, enfin, de lui permettre de dire quelque chose qui soit utilisé dans le cadre de sa poétique. Enfin, ça, c'est pas l'objet de mon allocution aujourd'hui, on pourra aussi en parler pendant la discussion, mais je pense parfois qu'il tourne les coins un peu ronds, enfin, comme on dit chez nous, quand il est question de la psychanalyse. Bon, je ferme la parenthèse. Ouais. Quoi qu'il en soit, il semble avéré que Bachelard, dans son premier ouvrage sur le feu, met en service une psychanalyse qui reste subordonnée au destin de la science et à la formation de l'esprit scientifique. L'appel du dépassement y joint essentiellement sur deux plans. Celui primitif, donc du complexe de Prométhée, au cœur duquel l'enfant qui veut faire comme son père brave l'interdit et dérobe des allumettes. Et celui évolutif, de la psychanalyse de la connaissance comme telle, dont la prétention avouée est précisément de jeter un peu de lumière dans l'expérience primitive afin d'élever l'esprit à la rationalité. On ne se surprendra donc pas, en parcourant la psychanalyse du feu, du poids qui occupe ensemble une science et un prométhéisme qui restent essentiellement déclinés au masculin. Deuxième partie. La référence à Prométhée dans la psychanalyse du feu ne saurait pourtant se résumer à la hauteur, à l'esprit de conquête ou à la volonté de l'homme du dehors, de l'homme rationnel, comme dit Bachelard. En effet, le chapitre que Bachelard consacre au complexe de Prométhée comporte deux petites sections dont le propos est plutôt parallèle, voire relativement autonome par rapport à la vocation épistémologique de l'ouvrage. Pour l'essentiel, il s'agit de souvenirs d'enfance, ce qui n'est pas du tout innocent. La science n'y est donc pas évoquée, le personnage ou le complexe de Prométhée non plus, en tout cas pas directement. Ce qui a pour effet de convoquer le lecteur dans une enclave, dans une marge, où la séduction des images, plus que leur critique, semble animer la plume du philosophe, qui du coup rêve plus qu'il ne pense, se souvient plus qu'il n'ironise. Le feu et la chaleur, précise à cet effet Bachelard, sont pour nous l'occasion de souvenirs impérissables, d'expériences personnelles décisives. Le lecteur vient d'entrer, en exergue du monde des faits et des objets, dans le monde de l'expérience concrète et des adhérences de l'homo habitans. Ce monde, chez Bachelard, c'est, comme tout le monde le sait, celui de la solitude rêveuse. Bien entendu, la marge qu'on vient d'évoquer ne cesse pas pour autant de servir l'inventaire des erreurs auxquelles Bachelard, dans la psychanalyse du feu, cherche à contribuer pour faire valoir que lorsque nous nous tournons vers nous-mêmes, nous nous détournons de la vérité. En ce sens, ces deux petites sections restent fidèles à la vocation, à la problématique générique, pardon, de l'ouvrage. Ce qui n'interdit toutefois pas de constater que le retournement opéré par le philosophe dans son premier ouvrage sur le feu, en dépit du fait qu'il sert a priori l'épistémologie, vient ouvrir dans son œuvre une brèche, on connaît l'importance, hein, de la psychanalyse du feu en 38 dans son œuvre, un monde dont la science sera progressivement mise en parenthèse pour que Bachelard entre d'autant plus librement dans ce monde, et l'adhésion aux images de plus en plus valorisée, de plus en plus cultivée dans son règne propre, à savoir celui de l'imagination et de la poésie. Un peu comme si le parcours mesuré et objectif de l'esprit scientifique venait justement d'être troublé par une altérité indépassable, une altérité sise au cœur épocal ou suspensif de la solitude. Une altérité indissoluble dans l'appareil des explications rationnelles ou des motifs psychologiques. Dans le chapitre en question, ce changement de ton est notamment perceptible dans le maintien, par Bachelard, de l'opposition et de la dialectique d'attitude ou de tendance contraire. Autrement dit, par la catégorie du double, plutôt que par l'esprit, enfin, ça me fait penser en me lisant moi-même, enfin, à ce qu'on a dit de l'âme un peu plus tôt aujourd'hui, hein. Essentiellement masculin de la conquête et de maîtrise. De sorte qu'en parallèle d'une perspective scientifique où il s'agit de purifier et d'unifier l'expérience, le philosophe découvre dans le feu une matière dont les valorisations sont naturellement et indiscutablement hétérogènes. Je cite Bachelard. « Je ne relis pas cette page de médecin du 18e siècle. Explique qui pourra ce rapprochement invincible. Sans me souvenir du bon et solennel médecin à la montre d'or, qui venait à mon chevet d'enfant et tranquillisait d'un mot savant ma mère inquiète. C'était un matin d'hiver, dans notre pauvre maison. Le feu brillait dans l'âtre. On me donnait du sirop de tolu. Je léchais la cuillère. Où sont-ils, ces temps de la chaleur balsamique et des remèdes aux chauds arômes? » Fin de la citation. Dans le passage cité ici en exemple, il n'est plus exactement question d'un prométhéisme aventurier, mais plutôt, et de façon nuancée, d'un prométhéisme inversé, si je puis dire, retourné, hein, d'un drôle de prométhéisme, d'une espèce de prométhéisme qui rentre au bercail, qui rentre à la maison. C'est-à-dire d'une rêverie qui, dans les images du feu, trouve non seulement l'esprit de défi, mais la matière même de l'attachement et de la vie protégée. Doublement protégée. Premièrement, par la chaleur intime de l'âtre et de la maison. Ensuite, par l'assurance savante du bon médecin et de la connaissance universelle. On peut tout de suite voir quelque chose du féminin et du masculin dans cette référence. Ainsi partagée entre le monde du dedans et l'univers du dehors, la flamme qui couve et la flamme qui brûle, le feu du plaisir et le feu du danger, Bachelard semble provisoirement se détourner de l'ironie autocritique chargée de préparer le jour et la lumière de la raison. En contrepartie, il est un peu tôt pour affirmer que la dialectique comme telle, à titre de réseau de renvoi, donc il ne s'agit pas simplement du masculin et du féminin, enfin, mais du renvoi des deux positions entre elles, enfin, des deux directions de songe entre elles. Donc, à titre de réseau de renvoi, prend explicitement chez le philosophe la valeur d'une transitivité qui transcende les régions de l'être qu'elle contribue, en même temps à appuyer les unes sur les autres. Il ne faut en effet pas oublier qu'à l'époque de la psychanalyse du feu, Bachelard a insisté pour préciser que tout ce que peut espérer une philosophie, c'est de rendre la science et la poésie complémentaires, de les unir, dit-il, comme deux contraires bien faits. Autrement dit, j'ai de la misère à me relire, en 38, voilà, le philosophe double la perspective épistémologique pour donner libre cours à une philosophie qui se multiplie en additionnant les dualités, en greffant sur toute expérience le modèle sexuel et mythologique. Ça, on pourra certainement en parler pendant la discussion, hein, parce que le modèle sexuel, mythologique, on pourrait aussi dire cosmologique, et ce modèle a quelque chose à voir avec la tradition, avec la tradition qui est celle de Bachelard comme occidentale, et je pense que ça joue un rôle assez déterminant dans sa pensée. Donc, de l'opposition et de la complémentarité. Or, dans la psychanalyse du feu, Bachelard ne métaphorise pas encore beaucoup ce modèle du couple de la bipolarité. Nous aurions même tendance à suggérer qu'il privilégie surtout la catégorie de la différence à celle de l'altérité comme telle, altérité qui non seulement implique l'autre, mais surtout le caractère ultimement inassimilable de ce qui, précisément, est autre, exclu, hors d'atteinte complète. Ici, je fais une petite parenthèse. Hein. Ici, je prends un risque parce que je ne me contente pas de dire qu'il y aurait deux pôles qui seraient mis en dialectique, hein, comme si le masculin et le féminin, par exemple, ou par ailleurs, le modèle prototypique chez Bachelard étant celui de la science et de la poésie, pouvaient être mis en rapport comme s'ils étaient complètement constitués et qu'ensuite il s'agissait d'être mis en rapport. C'est justement ce que j'essaierai de montrer, qu'il y a quelque chose qui dépasse la simple hétéronomie, enfin la simple hétérogénéité. Il y a quelque chose du féminin et du masculin, de la science et de la poésie, de toutes les autres dialectiques que Bachelard va évoquer, allant du dur au mou, de la hauteur à la profondeur, etc., etc. C'est le jeu de renvoi comme tel. C'est l'au-delà de l'un et de l'autre, dans le dialogue, j'oserais dire un peu plus tard, qui va leur permettre d'être. Donc ici, de toute évidence, je pense que je prends un petit risque, mais on pourra en discuter. Donc, cette plongée dans la polarité et l'ambivalence, en plus de nourrir une tension dans l'évocation des souvenirs d'enfance de Bachelard, ajoute également la dimension du récit et de la confidence faite au lecteur à celle plus discursive de son élaboration philosophique. Qu'à la complémentarité de ce qui couvre et de ce qui est profond, qu'à ce qui abrite et qui attache, qu'à l'étrangeté initiale d'une rêverie dont les données sont d'abord intimes, donc, le philosophe rêveur superpose également celle du lecteur, ce qui n'est pas peu significatif. Parler, c'est toujours parler à quelqu'un. Je pense que on va pouvoir trouver ça partout dans l'œuvre de Bachelard, même si c'est pas toujours forcément explicité. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de la dernière dialectique à laquelle il va s'intéresser, ajoutant même aux précédentes la sienne propre, qui, en s'articulant autour du commerce de ses différents âges, hein, l'enfance, la vie adulte, etc., je reviendrai avec quelques citations plus tard, convoque en quelque sorte son historicité, sa multiplicité à lui, et du coup, la perspective d'une nouvelle recherche d'unité. C'est ici que la vocation phénoménologique de la poétique du feu devient particulièrement intéressante. J'amorce la dernière partie de mon exposé. Il est notoire que cette unité d'être, Bachelard l'a beaucoup cherché dans la figure de l'androgyne et dans le destin d'un homme réalisant en lui la synthèse et la paix des genres, des contraires. Aussi bien dire dans une dialectique heureuse et apaisée. Aura-t-il réussi? Apparemment, rien n'est moins sûr. En tout cas, il semble que la rêverie bachelardienne ne soit jamais neutre, jamais en équilibre statique. toujours en avant d'elle-même, elle se donne plutôt comme la passion même de la nouveauté, de la mobilité et de l'ouverture de la parole. Même lorsqu'il s'agit, au creux de la rêverie, d'habiter des instants mélancoliques, la poésie dilate le monde, l'augmente, le renouvelle. Dans cet esprit, la rêverie se donne en effet comme le contraire d'une totalisation ou d'une unification accomplie. En ce sens, l'insistance du philosophe pour voir dans la figure de Prométhée le modèle parfois un peu stéréotypé d'une rêverie en animus a de quoi laisser perplexe. Enfin, moi, ça m'a laissé un peu perplexe, à tout le moins. Surtout si l'on considère que l'avant-propos et l'introduction des fragments d'une poétique du feu, par exemple, se déploient à la manière de méditation à la fois patiente, affectée et nuancée par l'anima. En particulier lorsque Bachelard, dans son préambule, s'efforce de faire valoir qu'à ses yeux, l'être humain est une ruche d'être. Je continue avec une autre citation de Bachelard. « Pour trouver une unité d'être, il faudrait avoir tous les âges à la fois. » Comment, dès lors, comprendre que le prométhéisme, parfois convenu, mis de l'avant par Bachelard, ce prométhéisme qui, en maintes occasions, engage le philosophe sur la voie ascendante du dépassement de l'homme, du plus qu'homme? Bon, évidemment, ici, j'ai fait allusion à cette fameuse citation dans laquelle Bachelard parle de la ruche d'être, de sa multiplicité. J'avais, dans la première version du texte, j'avais même parlé d'étrangeté, ce qui est très paradoxal, au fond, parce que, par exemple, quand on compare avec la poétique de l'espace, où Bachelard parle de l'introduction dans la vie, fin du giron tiède de la maison, refusant que l'être soit simplement un être jeté, parlant du biais d'être et de la tiédeur du nid, etc., etc. Ça peut sembler très paradoxal, sinon, contre-productif, ou même un peu... faux, peut-être, de parler d'étrangeté, mais je soutiendrais quand même qu'il y a quelque chose de l'étrangeté. Hein. Le séjour que ménage Bachelard, ou dont parle Bachelard, n'est pas un séjour qui peut s'absolutiser ni dans une position ni dans l'autre. Enfin, d'ailleurs, la maison, c'est une sorte de dialectique entre recueil et déploiement. On en a entendu parler avec Mme Younes. On pourra en reparler aussi pendant la discussion, mais je pense qu'il pourrait être assez juste de parler d'étrangeté. Il y a un texte à l'intérieur duquel c'est très clair, très appuyé, très senti, et qui est beaucoup plus une méditation, à la limite une confidence affectée, qu'une élaboration discursive et philosophique. C'est le fameux fragment d'un journal de l'homme, hein, où Bachelard dit carrément, où il fait carrément référence à l'étrangeté. Hein, un monde sans un tu, dit-il, ne peut rien donner. Donc, il y a une sorte d'oscillation dans ce magnifique texte entre une solitude rêveuse qui peut être heureuse, hein, qui trouve une complicité, j'oserais dire, dans le monde, et une solitude malheureuse. Hein. Bachelard devant l'arbre qui dit « Cette branche, cette feuille n'est pas pour moi, hein, tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour me la donner. » Enfin, c'est, je pense que en se référant au fragment d'un journal de l'homme, on peut trouver des motifs pour parler de l'étrangeté, ou en tout cas de la ressource, c'est paradoxal de parler comme ça peut-être, mais de l'étrangeté dans la poétique bachelardienne. Je ferme la parenthèse, on pourrait y revenir. Je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. Donc la réponse, selon nous, ne tient pas tant dans le fait que Bachelard, dans ses rêveries sur Prométhée, cède la plupart des droits à l'animus, mais plutôt dans le fait que cette référence à l'animus, si l'on tient compte de l'orientation proprement phénoménologique de la poétique du feu, ça donne plus précisément à comprendre, en marge de la dialectique des de polarité définie et déterminée, comme le jeu de renvoi comme tel, de ces polarités entre elles. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, dans les fragments d'une poétique du feu, cette polarisation prend beaucoup plus officiellement que dans la psychanalyse du feu, la forme à la fois imagée et évasée du couple formé par l'animus et l'anima. C'est-à-dire d'une dialectique dont le dynamisme effectif semble présupposer le recul dans la pensée du philosophe, d'une logique de partition et de position des contraires. Et ce, au profit d'une méditation qui est loin de chercher dans l'organisation réglée de régions séparées de l'être, la vérité sur l'homme. Tant à assumer que l'être de celui-ci consiste, j'ose l'expression, je l'avais annoncé un petit peu plus tôt, dans l'être du dialogue lui-même, ou du moins dans l'être d'une oscillation, d'une dialectique. Dans l'être, disait déjà Bachelard dans la poétique de l'espace, où tout est circuit, tout est détour, retour, discours, tout est chapelet de séjour, tout est refrain de couplet sans fin. Loin donc d'être capté dans une dualité finie, le philosophe semble rêver et vivre de la polarisation sexuelle depuis la transitivité d'un système de renvoi au sein duquel il appelle l'altérité. Il appelle constamment à l'altérité. Altérité originelle, qui implique qu'être pour l'homme, signifie être au-delà de toute dualité constituée par le jeu d'une simple différence. Simple ici veut plus ou moins dire une différence finie, circonscrite. Bon. et qui présuppose, comme dirait Yankelevitch, l'assignation originelle de l'homme dans l'inachevé, quelque part entre l'infinitude, ici c'est une référence à Gadamer, de son vouloir dire et la finitude de son pouvoir dire. Bachelard, dans cette perspective, se présente comme l'explorateur jamais vraiment satisfait et en même temps jamais vraiment découragé de l'être de l'homme en tant qu'il n'est jamais fixé, c'est une citation de Bachelard, jamais là, jamais vivant dans le temps où les autres le voient vivre, où il dit lui-même aux autres qu'il vit. En ce sens, sa philosophie ne doit pas sa consistance à l'alternative de la joie et de la mélancolie, hein, de la vie quotidienne et de la vie rêvée. Au contraire, elle se présente à la fois comme le symptôme et la cure. Enfin, ça, c'est une réexpression aussi qui vient de Ricoeur, qui justement, enfin, Ricoeur a parlé comme ça en évoquant le Léonard de... enfin, la commentaire de Freud sur la Madone de Vinci, enfin, sur le... Oui. Hein, où il disait que dans la sublimation, par exemple, on découvre pas seulement le symptôme dans l'art, mais que l'art est tout à la fois le symptôme et le dépassement du symptôme, le symptôme et la cure. Hein, donc, je pense qu'on peut introduire cette sensibilité aussi dans notre lecture de Bachelard. Elle est donc, comme le titan de la fable, vie et mort, grévée par les auspices de la chute et appelée par le manque dans la parole. Dans la parole qui, par définition, est de manière totalement implicite chez Bachelard, vient toujours de l'autre. Je fais une mini-parenthèse encore une fois ici. Il y a l'ombre dans la psychanalyse du feu, et cette ombre, je pense, ne devient que plus croissante, que plus importante dans toute la poétique à partir de la... Enfin, les ouvrages sur les éléments et ensuite la poétique à partir de la psychanalyse du feu. Il y a une évocation très claire de Max Scheler au début. Hein. Bon, il parle de la vie objective, de l'ironie autocritique, qu'il faut brimer sa personne, etc. Et ensuite, il va dire, mais pour étudier l'autre, l'homme, le frère, la sympathie est le fond de la méthode. Donc, c'est clairement une évocation à Scheler, donc à l'éthique, une perspective éthique. Et cette ombre-là ne sera que plus croissante dans sa pensée. Je pense qu'elle marque quand même, d'une certaine façon, même la psychanalyse du feu. Ne serait-ce donc la parole qui vient toujours de l'autre, ne serait-ce que sous les traits du langage, dont il faut bien admettre avec le philosophe qu'il constitue l'espace insigne de tout ce qui est véritablement humain. Car s'il est vrai que le langage constitue le véritable espace imaginaire, il est vrai aussi que la langue des poètes est une langue transmise et reçue. Une langue, donc, qui vient elle aussi, d'ailleurs. Qui fait de la parole la plus libre une parole qui reste liée. Qui présuppose la rumeur de l'altérité dans l'exercice de sa liberté. Reste qu'il s'avère intriguant que Bachelard, dans son Prométhée poétique, n'ait pas insisté davantage sur le fait que la structure de renvoi qui agite sa rêverie dynamise aussi les principales versions du mythe comme telles. Ah, je fais référence aux les grandes versions du mythe chez l'Hésiode, etc. Il y a une espèce de prolifération ou d'accélération des dualités, des dialectiques. Hein. L'homme qui est mis en face de Pandore, les hommes et les dieux, la justice et la tragédie, etc., etc. Il y a un ensemble de couplets comme ça, de doublets plutôt. Il m'a assez étonné que Bachelard ne réfère pas plus qu'il l'a fait à ça. Mais bon, je ferme la parenthèse. Un peu comme s'il avait du mal à voir dans la tradition une source qui déborde par principe tout effort de réduction, réduction évidemment possible mais pas forcément automatique, par l'histoire et l'archéologie savante. Il semble en tout cas qu'il demeure ambivalent sur cette question. Dans le même ouvrage, il dira par exemple que les archéologues sont trop heureux quand même de leur découverte pour ne pas être des poètes, pour ne pas être tout de même des poètes. Mais peut-être ne faut-il pas se surprendre du fait que chez Bachelard, chaque direction de songe appelle plus ou moins son contraire. Le jeu de renvoi qui traverse son anthropologie de l'imaginaire étant fondé sur une ambivalence et un inachèvement qui rendent précisément possible sa poétique. Il faut tirer le son de cette hésitation vis-à-vis de la tradition. Hésitation qui marque sa poursuite de l'altérité, du saut d'un arrachement dont on peut légitimement se demander s'il est aussi effectif ou absolu, les mots sont un peu forts ici peut-être quand même, mais que Bachelard le pense parfois. Il ne s'agit évidemment pas ici de nier que la figure du héros mythologique sous la plume du philosophe engage assez systématiquement une perspective d'ascension d'être et de dépassement de soi. C'est pas du tout mon propos, je ne nie pas ça du tout, c'est une évidence. Mais plutôt de doubler la rêverie créatrice et libératrice qu'encourage Prométhée par la condition indépassable de l'exercice de la liberté humaine qui, au cœur de la solitude rêveuse, reste affectée et marquée par une mondanéité et une historicité irrémissibles. Dans le texte de Bachelard, celles-ci prennent notamment la forme narrée et esquissée de l'attachement au passé et de l'appartenance aux origines. C'est en définitive par rapport à celui-ci et non en marge de celui-ci qu'il faut questionner et comprendre son esthétique de l'humain. Dans ces fragments d'une poétique du feu, Le philosophe formule d'ailleurs lui-même cet aveu en précisant que pour vivre une ascension d'être, il faut garder une claire conscience de son départ. Ce à quoi il ajoute « Il semble que dans tout effort de culture, on soit le Prométhée de soi-même. Le passé est argile sous les doigts qui rêvent. » Le passé est la matière de la rêverie. D'une certaine façon, c'est ce qu'il nous dit. On avait quelque chose à faire, on l'a fait. Mais tout est toujours à refaire, et d'abord nous-mêmes. Si seulement on pouvait mettre dans la ligne d'un réel devenir le prométhisme dispersé qui va d'une occasion de culture à une autre. Bachelard vient ici d'ouvrir une porte qu'il referme assez vite, en évoquant que son ambition n'est pas si grande et qu'il se contente de travailler avec les images. Il est intéressant ici de constater que le mythe de Prométhée, justement, multiplie ses occasions de culture. Comme je le disais un peu plus tôt, hein. Par exemple en mettant l'homme au travail, en face de la femme, Pandore, et devant les yeux. Mais il choisit de ne pas trop s'approcher de la tradition, c'est-à-dire de ce qu'il assimile à la réduction de l'excès prométhéen. On est toutefois en droit de se demander si le personnage de Prométhée, qui a tout de même été présenté à Bachelard par la tradition, serait bien ce qu'il est pour lui en dehors du moutos, en dehors de la tradition vivante qu'il a portée dans l'être. C'est dans cet esprit que nous défendons l'idée selon laquelle le philosophe ne peut faire valoir la sublimation pure que sur la base de son appartenance à la tradition. Je précise ici, appartenance à la tradition n'a rien à voir avec une version réductrice, causaliste, déterministe qui aurait pu avoir ou qui pourrait avoir de la psychanalyse, par exemple. Hein? Appartenance à la tradition ne veut absolument pas dire que le passé est source de l'avenir, uniquement la seule source de l'avenir, hein, que l'avenir ne fait qu'étirer un passé qui s'attarde, c'est pas du tout l'idée. C'est l'historicité ici dont il est question, et non pas la causalité ou le déterminisme. Appartenance qu'il reconnaît lui-même mais élude assez rapidement. Quoi qu'il en soit, c'est le temps avec lui l'historicité de l'existence, donc de la rêverie elle-même, oui, que la Bachelard évoque clairement dans ce passage. La problématique du double et de la bipolarité des images s'augmente ainsi d'une réflexion fondée sur l'impossible totalisation de l'expérience et de la liberté humaine. Réflexion qui, dans le même mouvement, ouvre l'avenir et la possibilité pour l'homme de se lever à la parole et au dire, à la contemporanéité et à la nouveauté. La poésie et la création, dans l'œuvre de Bachelard, apparaissent ainsi presque toujours comme des formes accomplies de la mémoire, comme des mouvements de transcendance dont le moteur essentiel est l'ouverture à l'altérité elle-même. Altérité qui est en quelque sorte toujours un peu en dessous et un peu au-dessus, à la fois à titre d'origine et de destination, donc des images rêvées par le philosophe. Comme le remarque à juste titre Finkielkraut, la légende du héros voleur de feu a finalement une signification un peu contraire de celle qui fera de Prométhée le personnage emblématique du monde moderne. Autrement dit, les privilèges transmis aux hommes par le titan doivent d'abord être compris dans le contexte à la fois plus précis et plus englobant de la légende de Prométhée à titre de mythe de chute. C'est-à-dire qu'ils deviennent véritablement parlants, dans la mesure où les différentes versions du récit expliquent d'abord pourquoi et en quoi les hommes et les bêtes, les hommes et les dieux, sont à la fois différents et complémentaires dans leur être et leur domaine respectif. C'est cette association intime entre l'élévation de l'homme et sa chute, entre sa civilisation et sa déchéance possible, qui, en bout de parcours, doit nous permettre de reconnaître que, dans le mythe de Prométhée, une dramatisation du fait que la créativité et la rêverie ne sont possibles et pensables que dans l'horizon d'un monde commun et historique. C'est dans cette mesure également que le langage de l'utilité, comme dit Bachelard, dans la poétique du feu, semble nettement insuffisant pour dire la valeur humaine du feu, pour approcher la condition paradoxale de l'homme. Condition qui, dans l'attitude de l'homme moderne, se trouve marquée par une crainte des limites qui va parfois jusqu'à virer en ressentiment général à l'égard du donné. Cette attitude, on ne s'en surprendra pas, insiste à dessein sur le caractère transgressif et insoumis des ruses de Prométhée. En lui, elle perçoit le symbole de toutes les luttes pour la liberté et l'émancipation. Pourtant, en dehors de la vie que l'homme se fabrique lui-même, elle n'arrive pas toujours à faire apprécier qu'il habite un domaine au sein duquel il ne s'est pas lui-même mis au monde. Elle passe sous silence, donc c'est par la mort et le temps que la rêverie est donnée à l'homme, que l'art et la science lui permettent de faire histoire, de souffrir et de jouir de sa condition. Et peut-être aussi, certainement, de faire des livres sur l'imagination. Bachelard, en travaillant une esthétique du psychisme, ne nous invite donc pas dans une marche volontariste, hein? Que ce soit un philosophe de la volonté, oui, hein, mais enfin, je ne crois pas que ce soit un philosophe volontariste. Il y a une nuance assez importante, il me semble. mais bien dans un parcours éthique et une tâche ouverte de transmission et de création. Là, j'avais marqué à l'origine la continuité. Mais c'est on a l'impression, enfin, j'ai l'impression que j'ai, en pensant à bachelor, j'ai pas tellement le droit de parler de continuité. Discontinuité serait pas uniquement vrai non plus, c'est tout mon propos aujourd'hui, mais peut-être d'une continuité dans la discontinuité. Peut-être que cette espèce d'invention fonctionnerait un peu mieux. Donc, sous cette lumière, le prométhéisme bachelardien, loin de se donner comme une mesure uniquement exponentielle de surhumanité, se veut une invitation à la fertilité et à la contemporanéité. Une invitation faite à la pensée pour qu'elle sorte de ses automatismes. Une invitation à chercher dans l'autre la possibilité, comme la fuite infinie, du sens et de l'esprit. J'aurais peut-être plutôt dû dire ici de l'âme. La rêverie la mieux tournée, si elle ne thématise pas explicitement son ouverture à l'altérité, la présuppose toujours à la fois comme un fondement, et comme une fin. Toute la phénoménologie de Bachelard plonge dans cet abysse, puis à cette absence, qui est aussi la source de toute ouverture à soi et au monde. En ce sens, comme je le disais plus tôt, en commençant, l'ombre de Scheller et de Buber, annoncée assez clairement dans la psychanalyse du feu en 1938, traverse de bord en bord, je pense, et s'infuse partout dans la poétique de Bachelard. Merci.